de 18h à 20h dans la salle ASI08 à l'EHESS au 54 boulevard Raspail. Il y aura un autre débat sur les enjeux de la loi et plusieurs personnes y assisteront, puisqu'il y a Maud Angliviel qui est avocate au GISTI, Claire Rodier, donc juriste aussi au GISTI et à Migre Europe, Emmanuel Thierry, qui est anthropologue EHESS et à la Ligue des droits de l'homme. Et c'est un débat animé par Claude Calam, historien et aussi Ligue des droits de l'homme EHESS. Donc en fait, c'est le moment, je pense, que choisi pour pouvoir parler de ce projet, parce que si on ne l'explique pas, il y a peu de chances que les débats puissent avoir lieu tout seuls.
Oh, ils auront lieu au Parlement.
Voilà, ils auront lieu, mais est-ce que le travail sera fait au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, sachant tous les vices qu'il peut y avoir à l'intérieur même de ce texte? Moi, c'est l'inquiétude que je peux avoir.
Il y a des auditions en ce moment, et pas mal d'associations, la Ligue aussi, qui vont aux auditions organisées par les sénateurs, après ce sera les députés, mais on a un peu l'impression, enfin moi, mon sentiment, c'est utile ces auditions pour certains... sanctions, bah c'est pour lui. Mmh. Ah ouais. Ces auditions pour certains parlementaires, parce que ça les aide à travailler les amendements, etc. Mais on a quand même l'impression, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, qu'il y a tout ce qui est présenté et puis il y a les arrière-pensées. Et que finalement, cette loi, elle est pas très utile. Hein. Franchement, il n'y a aucun dispositif qui est fondamental. S'ils veulent expulser beaucoup, ils n'y arrivent pas de toute façon. Les OQTF, ils en prennent, mais ils n'arrivent pas, ça ne suit pas. Le travail, ils pouvaient les régulariser sans faire une loi de métier en tension. La circulaire va le suffiser. L'asile, ça se réorganise comme on veut. Il suffit de faire des décrets. Pour l'essentiel, hein, y a peu de mesures qui nécessitaient vraiment une loi. Donc, on est dans un truc, il fallait une loi Darmanin, et puis avec cet aspect très inquiétant du marchandage avec une droite et une extrême droite qui est quand même aux aguets, quoi, ouais, sur ces sujets.
Je pense que oui, ce sera le mot de la fin. Je pense que c'est ça dont il faut s'inquiéter largement. On a aussi une annonce concernant la projection future le 12 avril du film L'hypothèse démocratique de Thomas Lacoste en sa présence, et ce sera au centre Paris Anime de la place des Fêtes. Et si vous voulez nous contacter, le mail de la section, c'est ldhparis19 tout attaché @hotmail.com, et on vous répondra sur les programmations, sur les différentes actions de la section. Et on finit avec un titre qui se porte bien de Francis, s'appelle La colère. Et on en voit La colère.
Elle s'était longtemps cachée, on ne la voyait plus. On l'avait presque oubliée, on la croyait perdue. On acceptait tous les coups en silence, on acceptait tous les coups sans un mot. Mais voilà que depuis peu, quelques heures tout au plus, renaît comme une rumeur, comme un souffle ténu. Une flamme grave et libre qui danse, la voilà, elle est enfin revenue. Cette colère qui balayera, c'est la justice et les combats. Cette colère qui claquera la gueule à Brice et Nicolas. Cette colère qui fera taire tous ces tarés des ministères et qui unira dans la rue tous les humbles et tous les exclus. On l'a vu à la Bastille, on l'a vu au combat, les gars et les filles et soutenant leurs bras. On a entendu sa voix chaude et claire chanter, gueuler à tue-tête, ça ira. On a vu ses yeux qui brillaient, sa bouche grenade faire tomber bien des grilles et voler des gravats. En 68 du haut des barricades, elle a botté quelques culs de bourgeois. Cette colère qui va les râler, les injustices et les coups bas. Cette colère qui claquera la gueule à Brice et Nicolas. Cette colère qui fera taire tous ces tas des ministères et qui unira dans la rue tous les humbles et tous les exclus. Cette colère qui fera taire tous ces tas des ministères et qui unira dans la rue tous les humbles et tous les exclus. Acceptez ici que mon pays soit aussi son pays. Acceptez ici sans cette peur rôdant autour de lui. Acceptez ici que mon pays soit aussi son pays. Un frère, un ami, sans tous ces flics courant sur lui.
Thank you. Thank you. et triste. Sono le 22:30.
Negative feedback.
That you choose to be.
I think I'm going to die from it. Darling.
Sucks for me! I hate this place! I hate it! I just want to go home! I hate you. I don't even know you, but I hate you too. And I especially hate you.
I hate you!
Hate.
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 Thank you.
Radio Libertaire. Radio Libertaire, bonsoir. Bonsoir donc aux auditeurs et auditrices, à vous tous et toutes qui nous écoutez ce soir en ce vendredi 29 décembre 2023. C'est le dernier vendredi de l'année. Et je suis ce soir avec Guy. Ah, tu n'as pas...
Si.
Ah oui.
Ah voilà. oui, j'ai le micro.
Ah, tu as pris la place de
Serge.
Ouais. De Serge qui n'est pas là.
Dont on remarque l'absence.
Du coup.
Oh, vilain. Oh, vilain. Serge n'est pas là, oui. Et puis Yves, bonsoir Yves.
Bonsoir Henrik.
Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc, oula, je commence déjà dans les redites. The Post Non Radio Show. C'est cette émission le vendredi soir à partir de 21h, 21h30 qui commence en direct, puisque nous sommes en direct la plupart du temps, enfin tout le temps, qu'est-ce que je raconte. Et donc je voudrais commencer. Alors déjà, par deux choses, nous allons, alors Radio Libertaire, c'est radio-libertaire.org sur internet, c'est le site officiel radio, enfin anarchiste.info, c'est le site officieux, il y a des pages Mixcloud de Radio Libertaire et de toutes les émissions de Radio Libertaire qui sont aussi sur Mixcloud et sur toutes leurs pages. Vous cherchez, vous trouvez, elles sont trouvables maintenant. Il suffit de... Les Américains font ça très bien avec Google, puisque c'est eux qui ont le monopole de toute cette histoire, donc il n'y a plus qu'à... C'est quasiment instinctif, hein. Tu tapes un truc, tu l'as.
Et moi, j'utilise Brave et puis le moteur de recherche de Brave, d'ailleurs. C'est bien, ça donne... Bon, il y a quelques années, ça marchait très mal. Ça s'est beaucoup amélioré. Puis, il y a un moteur de recherche aussi de l'Union Européenne, dont j'ai oublié le nom. J'ai essayé quelques fois, c'était merdique, mais au début. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant.
D'accord, ok.
D'accord, okay.
Donc, je continue mes petites annonces.
Ok.
Nous émettrons en DAB+, à partir du 9 janvier 2024, c'est-à-dire dans une très très grosse semaine, sur Paris. Vous pourrez donc, pour certains, nous écouter dans une très meilleure, enfin, une meilleure écoute de son. Donc, si vous avez un poste DAB, nous sommes, alors, je sais pas sur quel bouquet on est, je me souviens plus. Serge n'est pas là pour nous...
Pardon.
À tes souhaits. Serge n'est pas là pour nous aider à peaufiner le détail de cette annonce, mais à partir du 9 janvier, donc, en DAB+, sur la région parisienne. Donc, meilleure écoute pour ceux qui auraient du mal à nous capter en FM. Voilà, c'est déjà un premier pas. Et puis, deuxième chose, la librairie Publico ferme demain soir à partir de 18h, pardon. Et elle est fermée jusqu'au mardi 9.
Exact.
Janvier.
Oui, c'est vrai.
Donc, approximativement la même date que le DAB. On est en DAB plus le 9, et la librairie ouvre le 9. Et donc, mon introduction sera très simple. Je voudrais ici remercier ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Cette année, j'en ai eu après ce qui m'est arrivé. Donc je remercie ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Je remercie également ceux qui m'ont appelé, ceux qui nous ont appelé à l'antenne pour dire que, bon, diverses choses, mais en tout cas, dire qu'ils appréciaient l'émission. Cette émission est une émission inégale, imparfaite, faite avec le cœur, avec passion, pour la radio, pour le fait d'être là, de parler de choses et d'autres, puisque cette formule, cette émission a eu plusieurs formules. À une époque, il n'y avait que moi, puis il y a eu Guy et moi, puis Yves, Serge, Guy et moi. C'est la formule actuelle. En tout cas, je vous remercie tous pour vos messages de soutien, vos appels, ce qui fait chaud au cœur, ce qui me fait chaud au cœur. Et pour la programmation musicale et aussi pour ce qu'on y dit, bon, voilà, c'est imparfait, inégal, c'est pas tout le temps une super émission, il y a des choses qui vont pas, etc., mais c'est comme ça, c'est du direct. C'est comme on est dans la vie réelle, puisqu'ici, on ne subit aucune pression sur Radio Libertaire, aucune pression d'une sorte. Bon, on a un peu d'autocensure quelquefois, il faut bien le dire. Mais à part ça, on fait un peu ce qu'on veut, on dit un peu ce qu'on veut, tant qu'on reste dans les clous de la bienséance, et c'est bien normal. On est des gens civilisés. Et puis, je sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais je sais pas comment trop le dire, en fait. En tout cas, je remercie tous les gens qui écoutent, qui m'ont témoigné de la sympathie, et qui ont appelé pour cette émission qui est ce qu'elle est. Avec ma personne, puisque je suis the master of ceremony, le MC. Je suis celui qui a créé et qui fait cette émission. Je suis extrêmement touché de savoir qu'il y a des gens qui écoutent et qui témoignent de leur sympathie. Voilà, c'était ce que je voulais dire pour le moment. Et on va juste faire un petit break musical, puisque, je le rappelle, cette émission est une émission musicale avant tout. On essaie, enfin, d'écouter de la bonne musique selon mes critères, puisque c'est moi qui fabrique cette émission et qui cherche toutes les semaines de quoi écouter, de quoi nous mettre dans les oreilles et vous accompagner la nuit. La nuit des. La soirée, la nuit des vendredis. Et quoi d'autre?
Quoi d'autre?
Ben oui, quoi d'autre?
Quoi d'autre, c'est que, effectivement, tu dis, c'est une émission où d'abord il y a de la musique, de la bonne musique selon toi.
C'est de la bonne. Voilà, après.
Qui n'est pas forcément de la bonne musique selon moi. Mais je dis toujours que c'est de la musique donc particulière et c'est de la musique qui n'a sans doute pas. qui n'est sans doute pas prise pour passer sur n'importe quelles ondes.
Et que
c'est bien à Radio Libertaire, et ben c'est bien qu'on puisse écouter cette musique. Voilà.
Et c'est bien qu'on soit là sur Radio Libertaire.
Exactement. Voilà.
Puisque c'est cette radio nous laisse la possibilité de nous exprimer assez amplement et assez librement. Et donc, merci à vous de m'écouter, d'avoir témoigné de votre sympathie. Je le répète, ça me touche énormément en cette fin d'année qui était une année à chier. Vraiment. Il nous est arrivé encore...
Non,
je dirais pas. Il nous est... Il m'est arrivé encore
non,
une...
Non, censure.
Il m'est arrivé encore une merde à Noël.
Non.
Bon, ok.
Non.
Ok. Mais il nous est arrivé... Bon, rien de grave. Hein.
Ça change d'ailleurs.
Rien de grave, juste... Je suis une voiture chartonnée.
Non.
Bref.
Je rigole.
Allez. Ouais. On se retrouve juste après ça.
Et ça, c'était un hommage à... Juste...
Radio Libertaire 89.4, Radio Libertaire la radio de la Fédération anarchiste après ses épanchements émotionnels, émotifs. Chers amis, nous sommes de retour. Donc cette émission de, enfin, musicale est entrecoupée de blabla, comme vous le savez, de nos camarades chroniqueurs. Enfin, des camarades chroniqueurs, oui.
Oui.
Et qui tournent leur page. Alors, en attendant de vous préparer, c'était un 45 tours paru sur le label Fetish Record, Fetish Record de Jan Jelinek. Alors, c'est un 45 tours de, où il y a deux faces. La face A, c'est Roméo Poirier, qui lui s'est occupé de, du premier morceau qu'on s'est entendu, Hate, Haine, la haine. Et Jan Jelinek, c'était la face Love, qu'on vient amour. On vient de s'entendre à l'instant. Ces 45 tours, en fait, ce sont deux petits collages, deux petites pièces radiophoniques miniatures qui échantillonnaient des morceaux de R&B, en fait, des morceaux existants, de musique R&B, des morceaux donc, du style R&B. Et ça a été fait pour une édition spéciale, enfin celle de Jan Jelinek. À l'époque, c'était en 2005. Il avait paru ça sous le nom de Exposer. Pour une édition spéciale, d'une émission de radio qui s'appelait Abenteuer Forschung, les aventures dans la recherche. Et donc le sujet était la sexualité, la romance dans le postmodernisme numérique. Et dernière chose à rajouter, c'est que sur la pochette, il y a deux photos extraites du film La nuit du chasseur, où on voit sur les doigts de Kirk Douglas dans ce film tatoué sur les doigts de Kirk Douglas donc les mots hate and love. Voilà, j'ai fini mon explication sur ce 45 tours.
Oui, très bien.
Roméo Poirier et Jan Jelinek, hate love.
D'accord.
Tout le monde s'en fout.
Non, on est...
Abenteuer
Forschung. Oui, Forschung.
Aventure.
Dit Forschung. Oui, c'est la recherche, c'est le développement, c'est tout ça.
Abenteuer Forschung. Aventure dans la recherche.
Aventeuer, on dit.
Aventeuer. Bah, je ne sais pas comment je suis.
Aventeuer.
Je ne connais pas l'allemand.
Oui, Teuer. Aventeuer et Forschung, tu le dis bien. Oui.
Ah, ok. Oui. Alors, qui commence entre vous deux?
Ben, je viens attaquer par un article qui s'appelle « Anarchie, ni dire, ni faire, n'importe quoi » de 1896 à nos jours. C'est une grande période hein, quand même. Hein. Ça fait plus de 100, on va dire 130 ans. Quoi. Préliminaire, alors donc après les déplorables attaques du stand de la Fédération anarchiste francophone et de nos compagnons et compagnonnes du groupe Kropotkin lors de cette rencontre de Saint-Imier, abusivement justifiée par un dévoiement révisionniste de la notion d'action directe, qui semble aujourd'hui servir de cache-misère à toutes sortes de mouvements d'humeur auxquels certaines et certains laissent libre cours dans la plus complète irréflexion. La détournant théoriquement dans son sens politique et pratiquement du combat contre le patriarcalisme, oui, exploiteur, oppresseur et aliénant. J'invite les les lecteurs, lecteurs, lectrices, donc du Monde Libertaire à une réflexion politique, et propose, pour commencer, la traduction revue et corrigée par mes soins d'un texte d'Errico Malatesta. Alors donc ça remonte effectivement, les personnes qui, peut-être de bonne foi, s'en vont confondant le nombrilocentrisme instillé par l'idéologie néolibérale aliénante avec la générosité du combat anarchiste, comme celle qui, d'une bonne foi, plus que douteuse, confond l'action directe contre les appareils d'État et les instances du pouvoir exploiteur avec une copie occidentalisée de la police des mœurs de Mahmoud Ahmadinejad et des pratiques de gardien de la révolution, digne aussi des...
Ahmadinejad, c'est pas un peu ancien
Oui.
Il est plus au pouvoir, celui-là.
Non, digne des Pasdaran iraniens. Donc, excusez-moi. Voilà, alors, ne condescendrons probablement pas à la lecture de ces lignes. Alors, les anarchistes cramponnés à un idéal de liberté, de solidarité, de justice, de responsabilité personnelle, d'amour et de générosité en tireront profit et y prendront plaisir. Alors, c'est écrit par Claude Strano du groupe Enza Sicardi. Je ne connais pas du tout. Hein. Alors, voilà, extrait de Erreur et remède. 1896, donc, c'est un texte qui est écrit par Errico Malatesta, donc à cette époque hein, déjà. Et c'est signé, le titre est mis en italien, Errori et Rimedi, donc Erreur et Remède, dans l'anarchie, Londres, août 1896, c'est bien ça. Alors, le nombre de ceux qui se disent anarchistes est tellement grand aujourd'hui, 1896, attention, hein, ouais, et sous le nom d'anarchie, on expose des doctrines tellement divergentes et contradictoires que nous aurions vraiment tort de nous étonner lorsque le public, nullement familiarisé avec nos idées, ne pouvant distinguer du premier coup les grandes différences qui se cachent sous le même mot, demeure indifférent vis-à-vis de notre propagande et nous témoignons aussi de la défiance. Nous ne pouvons naturellement empêcher les autres de se donner le nom qu'ils choisissent. Quant à renoncer nous-mêmes à nous appeler anarchistes, cela ne servirait à rien, car le public croirait tout simplement que nous avons tourné kazakh. Tout ce que nous pouvons et devons faire, c'est de nous distinguer nettement de ceux qui ont une conception de l'anarchie différente de la nôtre et qui tirent de cette même conception théorique des conséquences pratiques, absolument opposées à celles que nous en tirons. Et la distinction doit résulter de l'exposition claire de nos idées et de la répétition franche et incessante de notre opinion sur tous les faits qui sont en contradiction avec nos idées et notre morale, sans égard pour une personne ou un parti quelconque. Car cette prétendue solidarité de parti, entre des gens qui n'appartenaient ou n'auraient pu appartenir au même parti, a été précisément l'une des causes principales de la confusion. Et nous sommes arrivés à un tel point que beaucoup exaltent chez les camarades les mêmes actions qu'ils reprochent aux bourgeois, et il semble que leur unique critère du bien ou du mal consiste à savoir si l'auteur de l'acte que l'on juge se dit ou ne se dit pas anarchiste. Un grand nombre d'erreurs a amené les uns à se mettre dans la pratique en complète contradiction avec les principes qu'ils professent théoriquement, et les autres à supporter de telles contradictions. De même qu'un grand nombre de causes a amené au milieu de nous des gens qui, au fond, se moquent du socialisme, se moquent aussi de l'anarchie, et de tout ce qui dépasse les intérêts de leur personne. Il y en a toujours eu, hein, voilà, on voit qu'il y en a eu aussi, mais... Alors, je ne peux entreprendre ici un examen méthodique et complet de toutes ces erreurs. Aussi me bornerai-je à quelques-unes, oui, qui me viennent à l'esprit. Alors, avant tout, parlons de la morale. Il n'est pas rare de trouver des anarchistes qui nient la morale. Au début, ce n'est qu'une simple façon de parler pour signifier qu'au point de vue théorique, ils n'admettent pas une morale absolue, éternelle et immuable, et que dans la pratique, ils se révoltent contre la morale bourgeoise qui entérine l'exploitation des masses et condamne tous les actes qui lèsent ou menacent les intérêts des privilégiés. Mais ensuite, peu à peu, comme il arrive dans bien des cas, ils prennent la figure théorique pour l'expression exacte de la vérité. Alors, ils oublient que dans la morale courante, outre des règles inculquées par les prêtres et les patrons pour assurer leur domination, il s'en trouve aussi d'autres qui en forment même la partie la plus importante et la plus substantielle, sans lesquelles toute coexistence sociale serait impossible. Ils oublient que se révolter contre toute règle imposée par la force ne veut nullement dire renoncer à toute retenue morale et à tout sentiment d'obligation envers les autres. Ils oublient que pour combattre raisonnablement une morale, il faut lui opposer en théorie et en pratique une morale supérieure. Et pour peu que le tempérament et les circonstances les y aident, ils finissent par devenir immoraux au sens absolu du mot, c'est-à-dire des hommes sans règles de conduite, sans critères pour se guider dans leurs actions, qui cèdent passivement à l'impulsion du moment. Aujourd'hui, ils sautent le pain de la bouche pour secourir un camarade. Demain, ils tueront un homme pour aller au bordel. La morale est la règle de conduite que chaque homme considère comme bonne. C'est le titre du dernier morceau que je vous lis. Donc, la morale est la règle de conduite que chaque homme considère comme bonne. On peut trouver mauvaise la morale dominante d'une époque donnée, dans un pays donné, dans une société donnée. Et nous trouvons en effet la morale bourgeoise plus que mauvaise. Mais on ne saurait concevoir une société sans une morale quelconque, ni un homme conscient qui n'ait aucun critère pour juger de ce qui est bien et de ce qui est mal pour soi-même et les autres. Lorsque nous combattons la société actuelle, nous opposons à la morale individualiste de la bourgeoisie, à la morale de la compétition et de la concurrence, la morale de l'amour et de la solidarité, et nous cherchons à établir des institutions qui correspondent à notre conception des rapports entre les hommes. Parce que, autrement, pourquoi trouverions-nous insupportable que les bourgeois exploitent le peuple ? Une autre affirmation nuisible, qui pour beaucoup est sincère, mais pour d'autres n'est qu'une excuse, est que le contexte social ne permet pas d'être moral, et que par conséquent, il est inutile de faire des efforts qui ne peuvent pas aboutir, et que le mieux est de tirer le maximum pour soi des circonstances présentes sans se préoccuper des autres, quitte à changer de vie lorsque l'organisation sociale aura changé. Certainement tout anarchiste ou socialiste comprend les fatalités économiques qui obligent aujourd'hui l'homme à lutter contre l'homme, et il voit en bon observateur l'impuissance de la révolte personnelle contre la force prépondérante de l'environnement social. Mais il est également certain que sans la révolte de l'individu, s'associant à d'autres individus révoltés pour résister au milieu et chercher à le transformer, ce milieu ne changerait jamais. Nous sommes tous, sans exception, obligés de vivre, plus ou moins, en contradiction avec nos idéaux. Mais nous sommes socialistes et anarchistes parce que dans la mesure où nous souffrons de cette contradiction et où nous tâchons autant que possible de la réduire, le jour où nous nous adapterions au contexte social, nous n'aurions plus naturellement l'envie de le transformer et nous deviendrions de simples bourgeois, bourgeois sans argent peut-être, mais non moins bourgeois pour autant dans les actes et dans les intentions. C'est un article assez dur. Moi personnellement, j'ai besoin de le relire deux ou trois fois.
J'ai besoin de le réentendre parce que là.
Oui. Et donc, c'est d'Errico Malatesta. Alors, c'est pour cela, sans doute, ils mettent qu'on peut retrouver la version originale dans son intégralité est disponible... originale dans son intégralité, elle doit être en italien, mon idée, sur le site donc, internet panarchie.org. Alors, panarchie, point, je pense, hein, oui, voilà. Alors, panarchie, hein, y a pas de... c'est C-H-Y, .org/malatesta/malatesta.html. Voilà, c'est pas très compliqué, donc l'adresse, mais... Alors, une version en français est initialement parue dans Le Réveil, à Genève, mais il y a longtemps, hein, le 5 novembre 1904, puis fut reprise dans Les Temps Nouveaux le 8 décembre 1906. Hein, il n'y a pas d'autre... mais bon, il y a donc y a une version en français.
Tu nous refouilles un texte de 1900, je ne sais pas combien. Là.
Oui, de Errico Malatesta. Oui, oui,
auquel
oui.
On n'a rien compris, qui nous conspue sur la bourgeoisie. J'ai rien compris. J'ai rien compris au texte. Je n'ai pas écouté en fait.
Oui, oui. Je l'ai lu.
J'étais sur mon téléphone en fait.
Oui, écouté, mais j'aurais besoin aussi de le relire. Et j'essaierai d'aller sur Internet pour voir la version française, tout simplement, et qui doit exister, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Version en français, voilà, initialement parue dans le Réveil, qui existe hein, dans la vie aussi de. Errico Malatesta avec la même photo, oui, j'ai ça même.
Désolé, j'ai eu une absence. Attends,
oui, t'as eu une absence, mais c'est pas grave. Oui. Alors, c'est dans Le Monde Libertaire.
Non, j'ai pas eu une absence, j'étais sur mon téléphone en fait. Pas du tout écouté ce que tu as dit.
Auditeurs nous disent, vous pouvez répéter votre texte parce que là j'étais dans mon bain et donc j'ai eu une coupure où j'étais devant ma télévision d'une oreille où ma fille m'a appelé. Là, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît.
Ma mère m'a appelé.
Non mais bravo, Enrique.
Voilà quoi. On va faire répéter Guy, mais juste après un morceau de musique après. Allez, après un morceau de musique.
Unnoyella kaiya A giudicando da coca gli sa a meditarlo a mia coi scia In the Kokaido, an rukalo ye anno anisi aya.
Radio Libertaire, 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est The Post Non Radio Show, et à l'instant c'était Luz Azul, un groupe composé de Anna Hamler, Marcos Fernandez et Robert Montoya. Un voyage vers la Lune, c'est ce que dit... Les notes de pochette, un disque phénoménal, superbe, enregistré, paru en 2020 sur le label Cortisona Records. En tout cas, avec tout un délire sur le métal, le... Eux, ils sont partis là-dessus, sur le métal, sur un voyage lunaire et délire psychédélique. Voilà, c'est à vous, chers amis.
Bon, alors, Guy ?
Eh bien, oui. Je vais pas relire le texte parce que le texte il est long. Mais pour le résumer, pour les résumer comme ça, c'est Malatesta qui parle. Donc, on est en 1896 hein, quand il fait son texte. Il parle, mais c'est encore maintenant. Hein, moi, je vois surtout c'est dans les jeunes quand ils sont un peu rebelles. Il y a quelque chose contre laquelle ils sont. Ils se disent ah ben moi je suis aussi anarchiste parce qu'ils le reçoivent. Je sais pas comment ils reçoivent le mot anarchie. Au travers des médias, hein, voilà maintenant, mais toujours
c'est la rébellion,
que
en fait, moi,
c'est la rébellion, mais
oui,
c'est
base, la rébellion,
mais ça va de, être
mais c'est la rébellion,
le bazar ça. Malgré tout, et ça va
voilà,
donner quelque
ça,
chose.
C'est ça, l'anarchie, ouais. C'est le bazar, c'est la rébellion.
Ah ben, à cette époque-là, alors apparemment, c'était assez. Le mot était déjà assez connu, hein, parce qu'il dit le nombre de ceux qui se disent anarchistes tellement grand aujourd'hui. Hein, il y a ça aussi en démarrage de texte, hein, il dit ça. Et pour sortir de ça, il faut, il le dit, hein, lui, il dit voilà, il y a des, on utilise certains mots, nous, en étant des spécialistes un petit peu de autour du mot anarchie, on dit, on est anarchiste, mais en tant qu'adulte, on a des bases quand même, hein, certaines bases et tout, mais qui reprennent des mots de la vie courante, et tu peux prendre ces mots-là dans la vie courante. Te dire bah, je suis anarchiste parce que si, parce que ça, et qu'il n'a rien à voir avec l'anarchie, finalement. Donc, alors il le dit, il faut dépasser ça. Il faut expliquer aux gens que, oui, l'anarchie, pour l'instant, c'est ça chez vous, mais...
Déjà, dans les médias, l'anarchie, c'est le bordel.
Oui, c'est ça.
Oui, automatiquement, oui, ça, c'est...
Oui, c'est ça. Le chaos.
Dans les dictionnaires, les dictionnaires, on trouve ça aussi, oui.
Le synonyme, quand t'as... un texte qui est construit de façon anarchique, ça veut dire qu'il est construit n'importe comment.
Oui, voilà, oui. Donc, alors c'est très fort. Alors, à cette époque-là, c'était sans doute déjà très, très fort, parce qu'il dit « On peut naturellement pas empêcher les autres de se donner le nom qu'ils choisissent. » Donc, il dit « Quant à renoncer nous-mêmes à ce moment-là à s'appeler anarchiste, il dit « ça servirait à rien. » Voilà, il dit « Ah oui, allô, on est en écho, c'est superbe. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe, hein ?
Ben, ça résonne, voilà, attendez. Dès qu'on cause, hop.
Henrik, tu entends ?
Oui.
J'ai rien fait, là.
Il a rien fait, mais ça lui fait. On doit nous entendre de très loin. Oh là là. Ça y est, nous voilà en voie extraterrestre. Je ne sais pas si l'auditeur ordinaire
qu'est-ce qui se passe
reçoit ce que l'on reçoit dans les écouteurs.
J'ai rien fait du tout.
Nous sommes... Voilà, mais nous sommes...
J'ai rien fait.
Ah bah ça y est.
Voilà. Ah ça y est, c'est passé.
Oui.
T'as bien fait de reprendre la parole.
Oui, oui.
C'est ton silence qui posait un problème.
Oui, oui.
Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Bon, on n'a pas pris le pouvoir. Hein. N'ayez pas peur, on n'a pas pris le pouvoir.
Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé.
Non.
Désolé.
Voilà, alors donc, bah oui, on va retrouver, mais vraiment ici, c'est l'anarchie, hein, on a l'impression, hein, non ? Alors, le mot anarchie, effectivement, pas dans tous les dictionnaires, enfin, mais le Larousse, c'est sûr, il signale que l'anarchie, c'est le désordre, c'est toute chose comme cela. Voilà, ça revient un petit peu.
Ah, c'est cette platine.
Ça y est, voilà.
Cette platine qui
a qui.
Ça, bon. C'est un bruit de platine, oui, ça, c'est pas bête. Voilà.
Qui bourdonne, oui, voilà. Là, ça...
Oui. Là, oui. Ah, c'est bizarre.
Si vous
voulez, je peux faire des trucs sur la table.
Et puis, ça va remonter. Non. Ah non, c'est notre micro hein, qui renvoie le... Ouais.
Je ne sais pas si... Je ne sais absolument pas ce qui se passe.
Non, c'est beau quand même. Hein.
Alors, ouais. Pour ceux qui soupçonneraient l'existence d'un extraterrestre dans la salle, il y a un excellent article dans Le Monde Diplomatique. La dernière page est consacrée aux ovnis.
Ah, ça c'est.
Mais à l'intérieur, vous trouverez un truc sur Israël, hyper intéressant.
Je sais pas ce que j'ai fait. Je n'en sais rien. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug de la console.
Oh, c'est Henrik veut détruire notre émission.
Non, c'est la mienne d'émission.
Ah oui. Donc il veut s'auto-détruire avant le 24. Hein. Et pourtant, cette année...
Avant le 24, attends, on est le 29 déjà.
Oui, ah, oui mais avant, oulala, avant l'année 24. Avant l'année 24. Mais c'est vrai que...
Il va toi...
L'année a été horrible. L'année a été horrible.
Et moi, je vais commencer par vous lire un petit truc sur les éleveurs de dinde qui sont marrons. Et c'est toujours le petit encart du canard de cette semaine, donc daté du 27 décembre, canard enchaîné. Qui s'appelle le conflit de canards et qui n'est jamais signé.
Le conflit de canards.
Et alors, c'est assez drôle comme c'est écrit, donc je vais vous contenter de vous le lire avec. Je vais essayer de bien le lire, disons.
Ah oui.
Vous prendrez bien encore un peu de dinde. Cette année encore, 2 millions de méléagris gallo-pavots ont été sacrifiés pour le repas de Noël. Les Français restent accros à ce volatile, même si le prix de la bestiole ne cesse d'augmenter, comptait plus de 30% par rapport au réveillon précédent. Tout ça à cause de la flambée des coûts des céréales provoquée par la guerre en Ukraine, sans oublier la grippe aviaire, qui depuis un mois frappe de nouveau les élevages tricolores. Avec 50 millions de dindes élevées chaque année, la France n'en demeure pas moins la troisième puissance dindonnière, moi j'aurais dit dindonnière mondiale. Cocorico. Sauf que juste avant Noël, Bruxelles a pondu deux nouvelles... vous me connaissez, il y a forcément Bruxelles qui arrive. Sauf que juste avant Noël, Bruxelles a pondu deux nouvelles règles environnementales qui fichent la chair de poule à nos éleveurs. Car jusqu'à présent, une directive sur les émissions industrielles imposait à tout élevage de plus de 40 000 dindes, donc soumis à autorisation, de mettre en œuvre une palanquée de coûteuses mesures afin de limiter ces rejets en oxyde d'azote, en ammoniac et en poussière. Mais le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Union européenne viennent de décider d'abaisser ce seuil à 9333 individus. Résultat, 73% des éleveurs tricolores vont devoir piocher dans le porte-monnaie pour se mettre aux normes, sous peine d'une amende pouvant grimper jusqu'à 3% du chiffre d'affaires annuel. Selon le comité interprofessionnel de la dinde française, vent debout contre la révision de la directive, beaucoup d'éleveurs n'ont pas l'oseille pour payer et vont se retrouver sur la paille. Et la filière du dindonneau l'a d'autant plus mauvaise que pour des poulets en batterie, le seuil reste inchangé, c'est-à-dire 40 000 places par poulailler. Chez ma grand-mère, à Drancy, il y avait 4 poules. Ben, là, ils reprennent le 4, mais ils mettent 4-0 derrière. 40 000 places par poulailler.
Oui, oui.
Et que le troupeau bovin, pourtant pointé du doigt pour ses émissions de méthane, a lui réussi à se faire exempter, au moins jusqu'en 2026. Ouais. Alors, si nos éleveurs de dinde se prennent dans le gésier de durcissement de la directive, qui vise notamment les méga-élevages, c'est aussi parce qu'ils ont poussé à l'extrême l'industrialisation de leur production. La densité de bestioles par mètre carré va jusqu'à deux fois plus forte que celle du poulet en batterie. C'est-à-dire la quasi-totalité du cheptel étant profilée pour la croissance ultra rapide qui, à coup de rations hyper énergétiques et antibiotiques, propulse un dindonneau de 100 grammes à une masse de 15 kilos, une dinde, hein, de 100 grammes à 15 kilos, en combien ? En 105 jours.
Oh, voilà.
105 jours. Et je me demandais pourquoi je grossissais, moi. Et en fait, je mange souvent des escalopes de dinde. Il va falloir que je révise le truc. Enfin, voilà. C'est pour ça que les éleveurs de dinde sont marrons.
Ils sont marrons, ouais.
Voilà, c'est horrible. Sinon, j'avais un petit truc rigolo que j'ai lu dans un coin, là. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ah oui, c'est Piqué dans le Monde. Rue des Petites Perles. Le Premier ministre, Gérald Darmanin, s'est félicité d'un texte fort. Il dépasse la borne. voilà.
Il dépasse la borne.
J'en ai une autre, mais là, il faut savoir à peu près à propos de la charpente métallique de la Tour Eiffel. Ça, c'est dans le journal du Centre, le 16 décembre.
Métallique.
La charpente métallique de la Tour Eiffel.
Métallique.
Métallique, pas mécanique, métallique, comme du métal.
Métallique.
Elle pèse 7300 tonnes. Ça représente la moitié du poids des produits alimentaires que nous distribuons chaque année en Bourgogne, soit 3000 tonnes de denrées. Et le canard conclut, un joli conte de Noël, c'est au MPTE. parce que, je répète, la tour Eiffel pèse 7300 tonnes et ils disent que ça représente la moitié du poids des produits alimentaires qui font 3000. C'est le contraire.
Oui, bah c'est le contraire. C'est carrément le contraire. Oui, bah oui.
Une autre petite perle dans l'Union, l'école actuelle accueille 22 élèves répartis dans 13 classes. Réaction du ministre, il est temps que je m'y attale.
Oui, oh, ça va être difficile.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? À propos de Noël, dans westfrance.fr, le titre c'est « Seringue, ne vois-tu rien venir ?» Trop de contraintes, surabondance et surconsommation, injection à être heureux. Et le canard écrit en dessous, cette injonction nous pique au vif.
Bah oui.
Il y en a une sur Depardieu. Ah, évidemment.
Oh.
Avec ce tombeau qui lui tombe dessus, il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer. Alors, réaction du canard, un tombereau. En tout cas, l'affaire est loin d'être enterrée.
Ah oui.
Voilà.
Avec ce tombeau.